Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Actuellement, lors de nos émissions, nous méditons sur la question « Comment reconnaître un bon dirigeant ?»
Tout au long de cette série, notre invité Robert nous conduira dans nos réflexions. Bonjour Robert.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Robert, aujourd'hui nous abordons ce sujet pour la dernière fois. De quoi allez-vous parler?
Jusqu'à présent, nos discussions se sont inspirées du psaume 72, qui nous dévoile l'image du roi par excellence. Et nous avons affirmé qu'il serait sage pour tout dirigeant, au niveau gouvernemental ou professionnel, ou même tout responsable de famille, de prendre modèle sur ce roi décrit à travers ce psaume. Tout individu, dans l'exercice de ses responsabilités, devrait aspirer à pratiquer la justice, à œuvrer afin d'améliorer la vie des autres personnes, notamment celle des pauvres et des vulnérables. Aujourd'hui, toutefois, je voudrais affirmer que ce psaume nous présente le roi que l'Éternel allait envoyer, car il nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Il nous révèle ses traits de caractère. Écoutons encore une fois des extraits de ce psaume.
Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi, et donne au fils du roi ton esprit de justice. Qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres selon ce qui est droit. La paix descend des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. Qu'il fasse droit aux opprimés et aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les enfants des pauvres et qu'il écrase l'oppresseur. Alors ils te vénéreront tant que durera le soleil, tant que la lune apparaîtra à travers tous les âges. Le roi sera comme une pluie qui descend sur un pré fauché, et comme des ondées désaltérant la terre. Que tous les justes soient prospères tant que son règne durera, et que soit la prospérité tant que la lune brillera. Qu'il règne d'une mer à l'autre, et depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'aux confins du monde. Devant lui se prosterneront ceux qui habitent le désert, et tous ses adversaires lécheront la poussière. Tous les rois lui rendront hommage, tous les pays le serviront, car il délivrera le pauvre qui implorera son secours, et l'affligé qui n'a point d'aide. Il aura compassion des faibles et des pauvres, il sauvera la vie des pauvres, il les arrachera à la violence, à l'oppression, ils seront précieux à ses yeux.
Il est vrai que ce psaume nous dépeint l'image du roi par excellence. Mais il n'est pas évident de parvenir à remplir de telles responsabilités, de devenir un si bon roi, d'atteindre un tel idéal.
Tout dirigeant devrait aspirer après cet idéal-là. Cependant, en pratique, il est vrai que tout homme ou toute femme va tôt ou tard décevoir. Malheureusement, certains aussi n'essaieront même pas de reproduire ces qualités, mettant en valeur la justice, la compassion. Du moins, c'est ce qui s'est produit en Israël. Lorsque nous lisons les écrits relatant l'histoire des rois dans ce pays, nous constatons que même les plus justes avaient des défauts. Ils étaient en lutte avec des péchés graves. En effet, bien qu'Israël était le peuple choisi par l'Éternel, beaucoup de ses dirigeants, de ses rois, ne respectaient en rien la loi donnée par le Seigneur lui-même. Au lieu de pratiquer la justice, beaucoup privaient les pauvres de leurs droits, afin de mieux s'enrichir à leurs dépens. Au lieu de servir les intérêts de leur peuple, trop de ces rois exerçaient la tyrannie. Ils l'exploitaient et l'opprimaient, encore une fois, pour assouvir un intérêt personnel.
Et malheureusement, ce genre de situation se répète encore de nos jours. Mais comment l'Éternel a-t-il réagi devant les abus de pouvoir exercés par les rois en Israël?
Il leur a envoyé des prophètes, qui clairement leur ont annoncé ce que l'Éternel pensait de la situation.
Quel est donc ce message?
D'abord, les prophètes ont dénoncé le mal pratiqué par ces rois et ces dirigeants injustes. Ils les ont aussi appelés à changer de comportement. Ensuite, ces prophètes leur ont annoncé que Dieu allait réaliser une promesse incroyable. Il leur déclarait, puisqu'aucun de ces rois d'Israël ne se montrait à la hauteur de son devoir, qu'il viendrait lui-même en personne. Dieu deviendrait le roi par excellence, celui qui servirait les intérêts de son peuple. Il pratiquerait envers lui la justice et il redresserait les torts commis.
Et ce roi par excellence, celui qui accomplit toutes les promesses et espoirs des prophètes, est Jésus-Christ.
Oui, nous n'avons pas le temps aujourd'hui de le prouver à travers les Écritures. Nous pourrions lire ensemble tant de textes, mais citons l'Évangile de Marc, chapitre 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. »
Nous pouvons encourager nos auditeurs à lire les Évangiles. Ils constateront alors que Jésus est effectivement celui qui est venu servir les hommes. Il est celui qui est venu les combler, satisfaire leurs intérêts, leurs besoins.
Oui, par sa vie, Jésus est un exemple. Il a vécu auprès des hommes, a répondu à leurs besoins, les a servis, mais plus encore. Par sa mort sur la croix, il a obtenu le pardon de leurs péchés. Car par elle, il nous réconcilie avec Dieu. Par elle, il nous délivre de la mort et nous donne la promesse de la résurrection d'entre les morts, si nous croyons en lui.
Effectivement, Jésus a servi nos intérêts les plus profonds. Et sur la croix, il nous a procuré le salut auprès de Dieu en donnant sa vie, en donnant ce qui lui coûte le plus précieux. Cependant, l'autre qualité du roi dépeinte à travers le psaume 72 est la justice. Vous ne l'avez pas encore mentionné à propos de Jésus.
Jésus est ressuscité d'entre les morts, et selon sa promesse, il reviendra un jour pour établir son règne éternel. Alors, en ce jour-là, il apparaîtra comme le juge parfaitement juste. Il redressera les torts commis et établira la justice dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qu'il prépare pour nous.
Que devons-nous faire à la lumière de cette promesse?
D'abord, nous devons nous confier en Jésus notre Sauveur et chercher auprès de lui le pardon, afin que la condamnation qui pèse sur nous soit enlevée. Ensuite, nous devons aspirer à mener une vie juste. Nous devons nous efforcer à pratiquer la justice et à promouvoir la paix. Il nous faut patienter devant les difficultés que nous pouvons traverser en attendant le retour de Jésus et le jour où sa justice poindra enfin.
Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons réfléchir sur le sens d'une illustration biblique, celle du trésor. Dans un premier temps, Hélène lira les paroles de Paul trouvées dans l'épître adressée à l'église de Colosse, chapitre 2, versets 2 à 4. Ensuite, Cédric nous guidera vers une compréhension de ces versets.
Je combats pour eux, afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble, en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouve caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Bonjour Cédric, parlez-nous de ces versets.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Paul a écrit ces lignes à une église située dans la ville de Colosse. Nous pouvons résumer ses propos ainsi. En la personne de Jésus-Christ, Paul a trouvé un trésor d'une valeur inestimable. Cependant, Paul ne se satisfait pas de garder ce trésor pour lui-même. Il ne se contente pas d'adorer Jésus seulement et de se réjouir de sa présence. Non, au contraire, Paul agit. Il œuvre afin que d'autres puissent découvrir à leur tour ce même trésor.
Il est vrai que parmi ceux qui deviennent tout d'un coup immensément riches, certains s'accrochent à leur richesse, égoïstement, désirant tout garder pour eux, tandis que d'autres donnent généreusement de leur surplus. Oh, ce dernier exemple illustre bien celui de l'apôtre Paul.
Oui, mais il faut le préciser. En partageant le trésor de la connaissance de Jésus-Christ, nous ne perdons rien. En fait, tous ceux qui témoignent de Jésus aux autres racontent à quel point leur relation avec Christ s'en trouve enrichie, car Jésus est véritablement un trésor inépuisable.
Merci, mais Cédric, dans les versets lus tout à l'heure, le mot « secret » apparaît deux fois. Expliquez-nous son sens, s'il vous plaît.
La culture religieuse d'Asie mineure de l'époque encourageait les gens à se préoccuper de découvrir des réponses aux secrets mystiques. C'est pourquoi Paul saisit ce détail, les caractérisant, pour l'appliquer au message de l'Évangile. En fait, Paul souligne qu'il n'existe plus de secrets, car Dieu a choisi de tout dévoiler aux hommes. Il a désiré tout leur révéler en la personne de Jésus-Christ. Il n'est donc plus nécessaire de partir à la recherche d'une connaissance ésotérique par le biais de voies mystiques ou occultes. Non, il suffit désormais de se tourner vers Jésus-Christ et d'apprendre de lui. Jésus-Christ nous révèle tout ce dont nous avons besoin de connaître pour nous approcher de Dieu, pour marcher avec lui et nous nourrir de sa présence jour après jour.
Paul emploie un langage un peu ironique en parlant d'un secret qui n'en est plus un.
Oui, comme je l'ai expliqué, Paul se servait du vocabulaire religieux de son époque pour faire passer un message. Et puis le message de Jésus-Christ était d'une grande nouveauté pour ces personnes. En fait, voici ce que Paul leur dit. « Voici, vous cherchez depuis bien longtemps à pénétrer les secrets qui pourraient répondre à vos aspirations spirituelles. Eh bien, ne cherchez plus, car moi j'ai trouvé la réponse à ces mystères. Ne cherchez plus, car l'Éternel m'a dévoilé la vérité, et je vais vous l'annoncer. La véritable connaissance se trouve dans la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. La vie nouvelle réside en sa mort et sa résurrection. »
Aujourd'hui encore, me semble-t-il, beaucoup d'hommes et de femmes sont en quête du secret, d'une connaissance cachée qui comblera la vie et qui leur donnera une raison d'être.
Vous avez raison, Yann, cette quête peut s'expliquer de plusieurs manières. Il existe des gourous détenant soi-disant les clés de la spiritualité. Sont également disponibles des livres psychologiques prétendant dévoiler des secrets qui nous permettront de mieux réussir notre vie ou nos relations personnelles. La sagesse humaine est parfois utile, mais à côté de la sagesse divine révélée en Jésus-Christ, il n'existe pas de comparaison. C'est toute la différence qui existe entre le mendiant qui reçoit d'un passant quelques pièces et un autre qui est invité à s'installer dans le palais d'un roi pour y devenir un prince.
Dieu s'est entièrement révélé en Jésus-Christ. C'est comme si un trésor enfoui a été déterré et mis à la disposition de tous. Comment donc profiter de ce trésor ? Comment donc accéder à une connaissance de l'Éternel ?
Eh bien, tout ce que l'Éternel a choisi de révéler aux hommes a été décrit dans plusieurs livres, dont l'ensemble forme la Bible. Ainsi, nous devons nous familiariser avec le message de la Bible, soit en la lisant, soit en écoutant ceux qui l'enseignent fidèlement. Mais ensuite, il faut croire, il faut recevoir les vérités que l'Éternel a choisi de nous dévoiler. Celui et celle qui y croient le prouveront en mettant en pratique l'enseignement de Dieu reçu. C'est ainsi que leur démarche de foi les conduira vers une connaissance grandissante de Jésus-Christ, vers la jouissance d'une amitié avec Dieu le Père.
Nos deux séries, Le Bon Dirigeant et l'illustration biblique du trésor, se terminent aujourd'hui. Nous remercions de tout cœur nos deux invités, Robert et Cédric, pour leur participation enrichissante.
Lors de notre prochaine émission, nous écouterons un témoignage. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.